Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Axel Mauger, écrivain, essayiste, analyste du français dans le monde, nous présente la deuxième émission d'une série de trois consacrée aux francophiles américains. Après s'être posé la question de la place du français aux États-Unis dans la première partie, il évoque cette fois-ci l'enseignement du français aux États-Unis. Axel Mauger.
Il faut savoir que la moitié des États américains, qui sont au nombre de 50, possèdent au moins une section de français. Par exemple, un État aussi reculé que le Montana en possède une. Mais quatre États en ont plus de six. Aussi bien le Massachusetts que New York sur la côte Est, la Californie sur la côte Ouest et le Texas dans le golfe du Mexique. Eh bien, ces quatre États américains possèdent, eux, au moins six sections de français. Donc, vous voyez, c'est tout de même important. Dans les universités, les plus importantes, la section de français tient debout seule, si j'ose dire. Dans les autres, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un département qui lui est consacré tout à fait. Dans les autres, elle entre dans le cadre des Romance Studies, c'est-à-dire des départements de langue romane. Sur la plupart des sites internet de ces sections, il est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe, évidemment, sur les sites internet de ces différentes universités, eh bien, on s'aperçoit que la plupart du temps, ce qui annonce la France et les études en français, c'est la Tour Eiffel qui est présente et donc sur à peu près sur de très nombreux sites, évidemment. Par exemple, le programme français de l'université de Richmond, en Virginie, est assez exemplaire. Le site s'intitule, je cite, « Le quartier français du village planétaire ». Il est en mise à jour continue. Il donne sur la page d'ouverture une citation du scientifique français Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon. Et donc, une citation, « Dans le cybermonde, peut-on lire, la notion d'étranger n'existe pas ». Oui, c'est vrai que distinguer ce qui est martien et ce qui n'est pas martien, c'est évidemment un peu compliqué. Et celui-ci parle de la conscience planétaire tamponnée par des précurseurs et cite jusqu'à Teilhard de Chardin. Rappelons, pour les auditeurs qui s'intéressent à Teilhard de Chardin, que Pierre Teilhard de Chardin, auteur de très beaux livres, et notamment d'un livre magnifique qui s'appelle « Phénomène humain », Paris le Seuil, 1970, eh bien, rappelons que ce prêtre jésuite français réputé est arrivé à conjuguer théorie de l'évolution et foi chrétienne. Installé à New York en 1951 vers la fin de sa vie, il y meurt en 1955. Dans les études universitaires en français, la place des femmes est, comme je le disais tout à l'heure, fortement étudiée. Par exemple, dans le département de français du collège Davidson en Caroline du Nord, le changement dans les relations hommes-femmes est traité à travers des auteurs de premier plan. Et ces auteurs de premier plan, ce sont des auteurs français classiques, Chrétien de Troyes, l'abbé Prévost, Chateaubriand, Stendhal, Gide, Mauriac et Robbe-Grillet. Donc on voit le choix est considérable, il est évidemment vaste. Un autre enseignant propose le même sujet, mais uniquement en lisant et en discutant des nouvelles ou de courtes histoires des 19e et 20e siècles, d'auteurs féminins et masculins qui vont de Balzac à Marguerite Duras, en passant par Alphonse Daudet, Colette, la délicieuse Colette, Simone de Beauvoir, etc. Un État reconnaît sa singularité, celui du Maine, où 40% des résidents, ça c'est quand même extrêmement important, 40% des résidents de l'État du Maine, donc sur la côte Est, revendiquent une ascendance française. Donc, pas par forcément les deux parents, mais par au moins un des grands-parents, etc. Ce qui n'est guère étonnant compte tenu de la proximité du Québec, mais c'est quand même tout à fait important. Au Betts College, donc c'est le nom d'un collège du coin qui s'appelle Betts College, tout à fait connu, une enseignante Mary Rice Delfos a coédité un ouvrage sur la place des femmes dans la littérature. Et le livre n'est est paru jusqu'à présent seulement en anglais, bon, c'est quand même très important, très intéressant. Ça permet à beaucoup d'Américains de se familiariser avec le féminisme en France. Et le titre de ce livre s'appelle « The Feminist Encyclopedia of French Literature, Greenwood Press 1999 ». Donc, c'est-à-dire l'encyclopédie féministe de la littérature française. Il y a bien des manières de rendre les études françaises attrayantes. Mais la cuisine, et ça, évidemment, c'est un haut point de notre gastronomie, et reste un vecteur privilégié. Ce qui passionne en réalité, c'est la façon dont les Français s'alimentent. Et là, il faut dire que celui qui va aux États-Unis un peu partout voit qu'il y a un engouement pour la nourriture française, pour l'alimentation française, qui est tout à fait considérable. À l'université de Cornell à Ithaca, dans l'État de New York, l'on trouve pour les étudiants des lectures alléchantes du repas ridicule de Boileau dans les satires, qui met si bien l'alexandrin au service de la satire gastronomique. À Jean-Marie, donc on peut aller de Boileau, disais-je à l'instant, à Jean-Marie Gustave Leclésio, pour qui le maïs procure une expérience religieuse. Ce n'est pas rien. Alors je cite le livre de Jean-Marie Leclésio, « L'inconnu sur la terre », Paris Gallimard, 1978. Bref, et ce n'est pas une mauvaise idée, on aiguise l'appétit des étudiants tout en les laissant légèrement sur leur faim. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose. De son côté, la célèbre école militaire, dont vous voyez, il n'y a pas seulement l'étudiant lambda ou l'étudiant des très bonnes écoles, des très bons collèges, de son côté, la célèbre école militaire, université de West Point, donc si vous voulez, c'est tout à fait le Saint-Cyr américain, explique pourquoi il est important de savoir le français, car durant le 21e siècle, il y aura de plus en plus d'occasions de travailler main dans la main avec les alliés parlant le français. Donc on le voit, même dans le domaine militaire, la France n'est pas absente, elle a encore des points forts, il va sans dire. Dans le collège de Wellesley, toujours dans le Massachusetts, établissement uniquement pour jeunes filles, centré sur les études artistiques, le tableau de la Joconde est associé désormais à l'image du campus car il symbolise pour beaucoup d'étudiants américains, donc tout à l'heure on parlait de la Tour Eiffel, maintenant c'est de la Joconde, il symbolise pour beaucoup d'étudiants américains la subtile et pure beauté indéfinissable de Paris. Ce qui fait le succès des sections de français, c'est l'ouverture sur le monde francophone, le Québec en premier lieu, mais aussi tout le reste du monde francophone. Et il faut rendre grâce au Québec, qui évidemment, parmi les Occidentaux, enfin dans le monde occidental, les Québécois venus de France ont été les premiers à, disons blancs, si l'on peut s'exprimer ainsi, à coloniser ce pays et dans une large mesure une bonne partie de l'Amérique du Nord, comme on le sait évidemment, du Mississippi à la Louisiane, etc. etc. L'université de Stanford, en Californie, développe, et ce n'est pas la seule université, croyez-le, le secteur de la francophonie, non seulement dans ses cours, mais en multipliant les documents à consulter sur place. Donc, il est vraiment tout à fait étonnant de voir le nombre de centres francophones aux États-Unis qui, je pense pouvoir le dire, sont souvent beaucoup plus riches que les centres francophones en France même. Donc, c'est un peu paradoxal et on peut se poser des questions et se demander pourquoi nos centres à nous sont si peu développés dans l'ensemble, etc. Un des derniers numéros de The French Review, donc de la revue française, autre revue importante qui permet de donner beaucoup d'informations sur la France, propose à la rubrique pédagogie des stratégies pratiques pour l'enseignement d'un cours sur le cinéma de l'Afrique francophone au sud du Sahara. Dans les universités américaines, un rôle important est joué par les maisons françaises, complément culturel créé auprès des départements de français. Donc il y a dans beaucoup de villes américaines, dans un certain nombre de villes, à côté des universités ou au cœur même de certaines universités, des maisons françaises qui permettent évidemment d'offrir un visage assez complet de la France d'aujourd'hui. Par exemple, à l'université de Columbia, deux très grands francophiles enseignent, ça ils sont connus dans le monde entier, Robert Paxton et Maristella Lorch. Cette université abrite sur le campus la Maison française, comme je viens de le préciser tout à l'heure, l'université de New York de son côté, en plein dans le quartier de Greenwich, où a longtemps enseigné un des francophiles américains les plus appréciés, Tom Bishop, qui reste aujourd'hui et toujours en vie, bien sûr, une mémoire de l'Université de New York. Ce lieu de haut savoir abrite deux maisons situées l'une à côté de l'autre. La première, où l'on peut assister à un très grand nombre de conférences, de colloques, de voir des expositions, voir des pièces de théâtre ou même des films les plus récents. La seconde maison est un institut d'études françaises unique aux États-Unis, axé sur la civilisation et pas seulement sur la littérature. Le socioculturel, il faut bien le préciser, l'emporte notamment et on peut même y trouver des possibilités comme apprendre un peu ce qui s'est passé dans les banlieues. Et évidemment, ça passionne les étudiants qui essaient de comprendre la question du tissu social français, il va s'en dire. Mais, d'une façon générale, c'est plus le culturel qui attire ces étudiants américains que le politique ou la politique qui agace. Pourquoi ? Ben, c'est très simple, c'est que le côté politique est toujours, hélas, un peu superficiel ou rendu superficiel, alors que le côté culturel, c'est ce qui reste, c'est l'épaisseur, c'est le profond, c'est le tissu intense de l'être humain, si je peux m'exprimer ainsi. Dans l'autre université, eh bien, ou autre collège, dans la capitale de l'Ohio, autre État américain, c'est-à-dire Columbus qui est la capitale de l'Ohio, il y a un collège qui s'appelle le collège Oberlin, où une maison française avait été fondée il y a pas mal d'années par une marraine de guerre, donc ça datait de la Seconde Guerre mondiale. Elle est devenue, cette maison française, maison francophone en l'an 2000 et offre une multiplicité surprenante d'activités. Alors, ce qui est très intéressant, il faut le noter dans le cadre des francophiles américains, c'est que petit à petit, le côté français s'est développé d'une certaine façon, si vous voulez, grâce aux nouvelles études francophones. Donc il y a là, je pense, un passage auquel il faut évidemment prêter attention et un développement qui peut être extrêmement intéressant sans pour autant, bien entendu, supprimer l'étude des auteurs français. À Yale, un enseignant comme Pierre Capretz, de vieille famille protestante du Dauphiné, se décrit lui-même avec humour et je cite, d'ailleurs, cette phrase se retrouve chez Geneviève et Philippe Soujoutard dans leur livre très intéressant qui s'appelle « De la francophilie en Amérique, ces Américains qui aiment la France » aux éditions Actes Sud. Alors, il déclare, ce Pierre Capretz, « Il se débat depuis plus d'un demi-siècle comme un diable huguenot, c'est pas un diable huron, un diable huguenot dans un bénitier papiste pour intéresser les Américains à la culture française. » Son programme « French » In Action, donc c'est le titre de son programme, permet de maîtriser notre langue sans ennui et avec efficacité. Autre personnage fort intéressant sur lequel il faut absolument insister, le grand historien Robert Darnton, qui d'ailleurs, Robert Darnton, qui est un des plus grands historiens, un des plus grands universitaires francophiles américains, a reçu un doctorat honoris causa de la Sorbonne le 15 décembre 2006. Donc, après un cours magistral, dans la prestigieuse université de Princeton, rien de moins, sur la France des 17e et 18e siècles, divise ses étudiants en petits groupes de 10 personnes afin de pratiquer la langue. Il commence par une partie de pétanque et exige que l'on parle en jouant sans complexe à propos de l'accent. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler un français un peu boiteux et en utilisant des expressions familières telles comme « les carottes sont cuites ». Bon, donc, il ne faut pas avoir peur de dire que les carottes sont cuites. Alors, le courant passe et les étudiants enthousiastes deviennent des chercheurs et des enseignants confirmés, comme une dame qui est citée aussi par les Joutards, Carla Allison S., qui est professeure à l'université Berkeley, qui n'est pas une des plus mauvaises universités américaines, il faut le reconnaître, spécialiste de l'histoire du 19e siècle, directrice en France à l'école pratique des hautes études. Elle s'intéresse entre autres à la carrière des historiennes aux États-Unis.
C'était Axel Mauger, écrivain, essayiste, qui développait la place de l'enseignement du français aux États-Unis. Restez à l'écoute de Canal Academy et téléchargez le troisième et dernier volet de la série consacrée aux francophiles américains. Toutes nos émissions sont en libre écoute et libre téléchargement sur notre site www.canalacademy.com.